Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 1866, le scientifique et artiste allemand Ernst Haeckel inventait un terme qui s'est depuis progressivement installé au centre de nos vies, écologie. En plein essor de l'évolutionnisme qui posait déjà la question de la place de l'humain dans la nature, ce terme a connu une progression peu commune dans l'histoire des idées passant du concept scientifique à celui de courant de pensée politique. Mais que sait-on vraiment de cette toute première définition d'un mot devenu protéiforme ? Science Chrono chausse ses lunettes conceptuelles et remonte aujourd'hui à la source de la toute première écologie. Bonjour Stéphanie Buchenau.
Bonjour Antoine.
Vous êtes germaniste et professeur à l'Université Paris 8 en histoire des idées allemandes et européennes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette genèse d'un concept devenu central dans nos réflexions sur notre rapport à notre environnement et à la nature. On va commencer cette émission évidemment avec l'écoute d'une archive, l'écoute du texte de Ernst Haeckel tiré de cette morphologie générale des organismes. Ce texte vous est proposé par Laurent Blampin. Il était écrit en 1866.
Par écologie, nous entendons l'ensemble de la science des relations de l'organisme avec le monde extérieur environnant, dans lequel nous pouvons inclure au sens large toutes les conditions d'existence. Celles-ci sont en partie organiques et en partie inorganiques. Comme nous l'avons montré précédemment, elles sont toutes deux d'une importance capitale pour la forme des organismes, car elles les obligent à s'adapter à elles. Parmi les conditions d'existence inorganiques auxquelles chaque organisme doit s'adapter, on trouve d'abord les propriétés physiques et chimiques de son lieu de résidence. Le climat, lumière, chaleur, humidité et électricité de l'atmosphère, les aliments inorganiques, la nature de l'eau et du sol, etc. Nous considérons comme condition organique d'existence l'ensemble des rapports de l'organisme avec tous les autres organismes avec lesquels il entre en contact et dont la plupart contribuent soit à son bénéfice, soit à sa perte. Chaque organisme a des amis et des ennemis parmi les autres, ceux qui favorisent son existence et ceux qui lui nuisent. Les organismes qui servent de nourriture organique aux autres ou qui vivent sur eux en tant que parasites appartiennent également à cette catégorie de conditions d'existence organique. Nous avons montré dans notre discussion de la théorie de la sélection l'importance énorme de toutes ces conditions d'adaptation pour la formation globale des organismes. Et en particulier, comment les conditions d'existence organique agissent sur les organismes dans la lutte pour l'existence en les transformant encore plus profondément que les conditions inorganiques.
Voilà, ça c'est la toute première définition de l'écologie tirée de l'ouvrage de Ernst Haeckel, Morphologie générale des organismes, principes généraux de la science des formes organiques, établie de manière mécanique sur la théorie de la descendance réformée par Charles Darwin. Je ne le répéterai pas en entier à chaque fois, Stéphanie Buchenau. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette naissance d'un concept devenu clé dans nos existences, on est obligé de présenter ce personnage de Ernst Haeckel au 19e siècle. Qui était-il? Quelle était sa formation? Et voilà, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu pour les personnes qui ne seraient pas familières de ce personnage qui est, malgré tout, dans l'histoire des sciences, quelqu'un d'assez conséquent?
Oui, donc Ernst Haeckel est un personnage intrigant, je dirais, dans cette Allemagne du 19e siècle. Comme nous venons de l'entendre, il invente les concepts d'écologie pour désigner une nouvelle sous-discipline de la biologie. Et cette invention, il faut la situer dans le contexte des théories de l'évolution du 19e siècle, une aventure à laquelle Haeckel participe très activement. C'est un biologiste reconnu, donc après des études de médecine, un fervent adepte du darwinisme. Il est professeur de zoologie à Iéna à partir de 1862 et un auteur prolifique des travaux scientifiques sur les organismes marins. Il fait aussi donc les premiers arbres généalogiques des espèces. Il est également philosophe, défenseur d'une vision du monde qu'il appelle le monisme, pour lequel il milite à travers sa fondation de la Ligue des monistes en 1906.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un peu le monisme en quelques mots?
Oui, donc ce monisme, c'est un antidualisme, on pourrait dire un naturalisme, dans la mesure où il permet de se dispenser de cette entité métaphysique qui est Dieu comme un être transcendant, placé à l'extérieur de la nature. Ce n'est pas pour autant un matérialisme, car il est panthéiste, il pense à un Dieu immanent et le place au sein même du cosmos. Ce Dieu est une force divine, une substance, un esprit qui anime toute la nature de l'intérieur. Et Dieu est même la cause nécessaire de toute chose, il est la loi même. Et l'être humain, quant à lui, donc je disais naturalisme, il faut pouvoir le penser comme un membre de cette nature même et du règne animal. C'est-à-dire, l'homme, il trouve une place dans un arbre généalogique des êtres organisés qui part de l'apparition du premier germe de vie par voie de génération spontanée. Donc, voilà donc un peu le contexte de ce monisme. Et Haeckel fondera donc aussi donc, la Ligue des monistes en 1906 pour défendre, donc, outre cette cause philosophique, aussi une cause séculière et anticléricale.
Mmh. Alors là, on a vu un peu l'inscription de Haeckel dans un cadre un peu théorique. Ce qu'il faut rappeler aussi, Stéphanie Buchenau, pour nous, Français, qui ne sommes pas forcément familiers de la culture allemande, c'est qu'il s'inscrit, lui, dans cette culture allemande et dans ce rapport très esthétique à la nature, qui n'est pas du tout incompatible avec un rapport scientifique à l'observation de cette nature-là. Expliquez-nous, du coup, comment lui aussi, il a ce rapport d'artiste à ce qu'il observe à la fois en tant qu'artiste et en tant que scientifique.
Oui, donc Haeckel, effectivement, il baigne dans la culture allemande depuis tout petit. Donc, né dans une famille protestante, proche du théologien Friedrich Schleiermacher, il se plonge donc très jeune déjà dans la lecture de Goethe, Schiller, Kant, Alexander von Humboldt. Il aime aussi le dessin et la peinture de paysages et hésite même pendant un temps entre une carrière d'artiste et de scientifique. Pendant ses études, il suit aussi l'enseignement de plusieurs naturphilosophes allemands. Toutes ces influences l'aident, donc effectivement, comme vous le dites, à élaborer son paradigme scientifique et écologique. Et parmi ces influences, il faut peut-être d'abord mentionner Goethe, qui est le plus présent dans cette morphologie générale, qui est présent dans les références aux formes, à la morphologie et dans les citations goethiennes mises en exergue à chacun des chapitres. Et comme Haeckel l'explique à plusieurs reprises, Goethe, pour Haeckel, est un naturaliste avant d'être poète. C'est notamment la métamorphose des plantes qui retient son intérêt puisque son enjeu est morphologique, dit Haeckel.
C'est vrai que ce cadre de pensée, il est très important pour comprendre la naissance du mot écologie. Il y a un contexte aussi historique très fort, c'est celui de la colonisation du monde par les Européens, qui fait que tout d'un coup, on découvre plein d'espèces vivantes, que les naturalistes accompagnent ces mouvements de colonisation et découvrent la diversité du monde vivant, qui les oblige à repenser les échelles de tout ça. Et c'est là qu'intervient finalement la naissance de cette pensée darwinienne. Comment est-ce que on peut faire le lien entre Haeckel et Darwin, et pourquoi est-ce que ces deux personnages-là, finalement, se rencontrent de façon aussi spectaculaire? C'est une conversion quasiment religieuse de Haeckel à Darwin. Quelle est cette histoire de cette conversion de Haeckel à la théorie de l'évolution?
Donc, effectivement, il faut se souvenir que Darwin publie l'Origine des espèces quelques années avant cette morphologie générale, donc en 1859. Et Haeckel se convertit au darwinisme dès 1860. Donc, il déclare publiquement, et c'est une véritable conversion, comme vous le dites, qui intervient après la mort de la première femme de Haeckel. Le jour de l'anniversaire de 30 ans de sa femme, Haeckel expliquera dans une lettre à Darwin que depuis ce moment tragique, qu'il aurait décidé de maintenant se vouer à la cause darwinienne, de vouer sa vie à la défendre.
Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Origine des espèces, et donc dans tous ces travaux et dans tout ce contexte scientifique, la conscience écologique, elle est déjà présente. C'est pas Haeckel qui invente avec l'objet et le terme écologie, une conscience écologique. Il y a d'autres concepts qui sont présents. Et ça, c'est toujours le cas dans l'histoire des sciences. Un concept n'apparaît pas miraculeusement comme ça. Il y a des concepts comme celui d'économie de la nature, de géographie botanique. Est-ce que vous pourriez nous parler de toute cette galaxie, de quelques aspects de cette galaxie de concepts qui sont là avant le terme écologie?
Oui, effectivement, il faut se poser la question. Donc, pourquoi Haeckel introduit ce concept-là en 1866? Quel est son usage? Pourquoi il a besoin d'un nouveau mot? Et il est toujours intéressant de regarder l'histoire des concepts. Ça nous donne une prise très concrète sur l'histoire de l'écologie. Et je pense qu'effectivement, à son temps, tout le monde parle d'abord d'économie de la nature. Donc c'est Darwin,
l'écologie, Lyell. Économie, étymologiquement, ça a une racine commune. C'est éco, oikos, l'habitat, la maison, c'est ça.
C'est tout à fait donc, la même racine et même, au départ, un peu la même idée aussi, puisque donc, si nous prenons par exemple Linné, qui en 1749 avait écrit un texte intitulé « Économie de la nature », défend déjà l'idée d'une économie domestique, on pourrait dire que Haeckel, en un sens, va reprendre. Donc cette idée du oikos, donc cette métaphore, il la reprend et en un sens, on peut dire, il va mieux la penser. Mais pourquoi donc il n'utilise pas ce terme-là? Pourquoi il a besoin d'un autre terme? Et je crois que, en un sens, c'est un autre programme scientifique qu'il impose. C'est un programme scientifique où il ne s'agit pas de s'imaginer donc un dieu transcendant placé à l'extérieur de la nature qui, lui, donc sera un peu le maître de maison, l'architecte.
L'organisateur.
C'est ça, en fait. Donc, il planifierait de l'extérieur donc, cet ensemble des fins et des moyens, donc cette économie domestique. Donc, cette image-là ne semble plus convenir à Haeckel puisque cette image ne permet pas de penser ce qui lui importe, ce qui est donc non pas l'économie en grand, donc planifié par un dieu transcendant, mais d'abord l'économie de l'organisme vivant. Et là, nous avons donc cette idée plutôt donc de l'organisme comme dans son propre oikos, dans un chez-soi qui lui appartient, qu'il peut reconnaître comme étant le sien, et qu'il s'approprie en ce sens-là, et donc s'approprie, donc ça nous ramène là aussi donc, à cette idée grecque, donc de oikos ou oikoiosis, donc le fait de s'approprier quelque chose, c'est grec, c'est stoïcien, et je pense que si donc Haeckel, en 1866, revient donc à ce terme, et donc en même temps donc, trouve un nouveau terme, l'écologie, c'est qu'il a envie, dans un nouveau programme scientifique, de repenser la chose à partir de l'organisme vivant. Et pour cela, donc, il choisit ce terme écologie qui donc à la fois oikos et logos, la science.
La science, donc c'est la naissance finalement d'une science qui émerge avec ce terme d'écologie. Il y a beaucoup de néologismes dans la morphologie générale des organismes. J'en ai repéré quelques-uns parce qu'il y en a certains qui sont tombés dans l'oubli. Il y en a beaucoup.
Totalement.
Écologie a connu évidemment le succès qu'on lui connaît, mais on peut retrouver des mots comme phylogénie, comme pithécanthrope, comme chorologie, l'étude de la distribution géographique des végétaux, l'ontogénie également, l'étude du développement de l'individu à partir de la fécondation. Donc on voit que là, il y a vraiment aussi un programme conceptuel très fort dans cette morphologie générale des organismes de Haeckel. Il y défend entre autres, dans cette morphologie générale des organismes, une théorie qu'il baptise la théorie de la récapitulation, selon laquelle, alors là je vais essayer d'être clair, l'ontogénèse, donc le développement d'un individu, récapitule la phylogénèse, donc l'histoire anatomique de l'espèce entière. C'est comme si on disait qu'un organisme donc traverse au cours de son développement des stades qui correspondent à la succession de tous ses ancêtres. Donc si on prend un exemple, c'est comme si un embryon humain passait par une étape de ver, puis d'insecte, puis de poisson, puis d'amphibien, etc., jusqu'à atteindre un état spécifiquement humain. Comment est-ce qu'il va rattacher, il peut rattacher ce terme d'écologie à cette théorie de la récapitulation? Et comment cette théorie-là, finalement, a été perçue? Je crois que c'est une théorie qui a connu un succès assez considérable jusqu'au début du XXe siècle, qui a même fait que Haeckel, lui, a soutenu des thèses racistes, puisqu'il disait que voilà, il y avait des hiérarchies entre populations, entre groupes d'individus, et que certains individus étaient du coup plus développés que d'autres. Est-ce que cette théorie de la récapitulation, elle est au centre de cette morphologie générale des organismes ou pas? Est-ce que ce livre-là veut défendre cette théorie? Et sinon, est-ce que l'écologie est plutôt centrale? Qu'est-ce qu'il veut faire finalement, si je dois récapituler cette question sans fin, avec cette morphologie générale des organismes?
Oui, donc je pense que là, on peut revenir encore à Goethe en un sens, hein, puisque l'idée donc ici est de faire une morphologie, donc l'enjeu est morphologique. Il s'agit aussi donc dans cette théorie de la phylogénèse de voir des formes, je crois, dans la nature, donc percevoir des formes organiques dans ce qui se présente comme un flux, donc une nature en devenir. Voilà, donc Goethe qui pense qu'il y a des formes fondamentales et primitives dont dérivent les formes organiques réelles ici est important. Et en même temps, nous avons aussi l'idée d'une complexification croissante donc dans cette évolution, dans ce développement. Et ici, donc, nous pouvons aussi penser à toute une tradition allemande qui pense à un perfectionnement, mais aussi sans doute à Lamarck et à cette idée de la complexification croissante. Voilà, c'est
oui,
un peu
là où Darwin lui pensait cette évolution comme une succession de phénomènes aléatoires, Lamarck et dans sa suite Haeckel, lui, eux pensent en termes de progrès finalement.
Tout à fait.
Je pense que chaque fois, on franchit une étape vers du perfectionnement d'une certaine façon.
Voilà, tout à fait. Et puis en fait, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que donc certains ont pu penser que cette interprétation-là témoigne surtout d'un malentendu et d'une mauvaise compréhension de Darwin, que Haeckel n'aurait rien compris à Darwin. Donc cette idée de perfectionnement semble aller vraiment à l'encontre de l'esprit même du darwinisme. Mais on peut ici voir aussi, je crois, un transfert d'idées très productif qui donne lieu justement à un autre paradigme scientifique, plus holiste, différent. Et je crois que ce que Haeckel a quand même bien compris chez Darwin, c'est que ces conditions organiques qui sont au centre, en un sens, de la réflexion de Darwin, cette idée que la concurrence, la lutte pour la survie induite par une pénurie de ressources, qu'elle a pour effet sur l'organisme aussi une adaptation. Voilà donc qu'on peut tout à fait penser que, en un sens, la présence de ces autres organismes permet l'organisme de croître et l'espèce de se perfectionner. Et en ce sens-là, c'est intéressant et ce n'est peut-être pas simplement un malentendu.
Oui, ce qui est intéressant avec ce concept d'écologie, alors ça, c'est, je fais un petit saut dans le temps, mais c'est que des biologistes américains qui s'appellent Elizabeth et Howard Thomas Odum, ils parlent de l'écologie comme d'un macroscope, comme d'un outil, bien sûr, imaginaire, mais qui permet de percevoir tout d'un coup ce monde à l'échelle macroscopique, nous y compris, nous inclus dans ce rapport aux organismes qui nous entourent. Et c'est ça, moi, que je trouve très intéressant, c'est que dès la genèse de ce concept qui, à l'origine, est très, très scientifique, très biologique, il est issu de la biologie. Biologie qui est un terme qui est né au début du 19e siècle également. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Est-ce que on a conscience immédiatement de la nouveauté de ce concept-là et de cet aspect novateur? Ou bien est-ce qu'il a une réception au début plutôt tiède? Quelle est la première réception du terme écologie?
Donc moi, je dirais que d'abord, pour Haeckel, ce n'est pas juste une écologie scientifique. Ce qu'on vient de dire en parlant de monisme, c'est que justement, il y a déjà quand même un contexte beaucoup plus large où Haeckel, lui, donc, il pense déjà l'homme comme étant inscrit dans cette maison, donc dans le monde, à un triple niveau, donc d'habitant, de spectateur impliqué en un sens et d'acteur. Donc, ces trois niveaux sont tout à fait présents. Donc, c'est que la question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est pourquoi ça se perd? Pourquoi Haeckel, on ne lit plus donc ce pan philosophique de cette écologie? Puisque, donc, vous avez raison, la réception, elle est d'abord scientifique. L'écologie est d'abord reçue dans un milieu scientifique où, donc, on observe en même temps, donc, une ramification de l'écologie scientifique et en même temps, donc, peut-être un élargissement donc à d'autres communautés de vie, donc voilà, à des perspectives et des niveaux donc plus supérieurs.
C'est ça qui est très intéressant avec l'écologie, c'est que vous parlez de ramification, on peut parler de tous ces termes qui émergent en même temps que le terme écologie, et c'est aussi ça l'histoire des sciences, c'est qu'il y a toujours des concepts qui naissent d'autres concepts, et c'est le cas pour l'histoire des sciences, c'est le cas pour l'histoire des idées en général. On peut parler par exemple d'autres concepts qui émergent 11 ans après la naissance d'écologie, le concept de biocénose chez Carl August Möbius. Qu'est-ce que ça désigne? Comment on le rattache à l'écologie? Et pourquoi est-ce que finalement l'écologie en tant que concept va donner naissance à la science écologique et à tous ces concepts nouveaux?
Oui, donc effectivement, donc il y a vraiment une multitude de termes qui émergent. Celui que vous venez de mentionner, biocénose ou communauté de vie, Lebensgemeinschaft, qui apparaît dans cet ouvrage de Möbius, qui est un ouvrage qui porte sur les bancs d'huîtres et qui thématise déjà un phénomène de surexploitation. Nous avons donc aussi, donc là d'abord dans un contexte allemand, puisque apparemment, donc c'est d'abord en Allemagne, peut-être dans d'autres pays d'Europe, mais un peu moins en France, qu'émerge le concept,
parler,
ce que vous venez de dire. En Allemagne, donc, il y a auto-écologie et synécologie, donc deux termes introduits par Karl Schröter en 1902. Donc, d'une part, auto-écologie qui désigne l'écologie des organismes, la synécologie, l'écologie des biocénoses. On peut aussi mentionner le milieu. Donc là en France, par Geoffroy Saint-Hilaire et Auguste Comte, auquel Jacob Uexküll, qui lui est un lecteur attentif de Haeckel opposera donc une Umwelt, un monde ambiant, donc toutes sortes de termes qui montrent comment il y a une pensée écologique qui se développe. Et le terme de biosphère aussi par Edward Zuss, celui des écosystèmes par Tansley.
On sent vraiment toute la ramification, l'arborescence de concepts qui émergent en même temps que celui d'écologie, des concepts qui vont questionner le terme d'écologie lui-même, ou en tout cas aller dans son sens et en découler directement. Vous évoquiez le fait qu'en France, il y a eu une plus forte réticence à ce concept d'écologie. À quoi est-ce qu'on pourrait attribuer ça? Est-ce que c'est à une germanophobie ambiante liée à la guerre de 1870? Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui feraient que les Français ont mis du temps avant d'intégrer ce terme d'écologie? L'écologie, par exemple, c'est un terme qui apparaît une seule fois en 1924 dans les rapports du tout premier congrès de protection de la nature. Donc ça, c'est quand même qui a lieu au Muséum national d'histoire naturelle, ce qui est assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'en France, on fait de la résistance avec le mot écologie?
C'est une très bonne question. Je crois que, premièrement, il faut voir que, tout simplement, cette morphologie générale n'a jamais été traduite en français. Donc, presque tous les ouvrages ont été traduits, mais...
Il est toujours pas traduit, d'ailleurs, il faut le rappeler.
Oui. Et puisque, sans doute, il est un peu plus technique et un peu moins livre grand public que les autres livres. Et donc, il est clair que cette absence de traduction n'a pas aidé à mieux le faire connaître. Mais je crois qu'il y a donc aussi peut-être des obstacles d'ordre institutionnel, donc une certaine division des disciplines, comme une distinction assez stricte entre zoologie et botanique pendant un temps. Mais c'était le cas aussi dans d'autres pays. Donc, pourquoi en France, on a tellement du mal à accueillir cette écologie? Et je crois que là, il doit y avoir une sorte de résistance culturelle. Je ne sais pas si je parlerai de germanophobie. Je crois que c'est plutôt une divergence de culture scientifique, peut-être, aux yeux des Français, l'écologie de Haeckel. Donc, à mi-chemin entre science, esthétique, vision du monde, semble dépasser, je crois, les bornes de la science. C'est du moins ce que laisse penser l'attitude du traducteur français de Haeckel. Donc, Jules Souris, qui fut d'abord un grand admirateur de Haeckel, leur relation se dégrade un peu plus tard, à mesure que Haeckel engage son combat idéologique en faveur du monisme. Jules Souris, donc, lui, il est athéiste, il est matérialiste, et il finit par rompre avec Haeckel, donc, dans une lettre de rupture assez virulente.
Comme à l'époque, on savait le faire, oui.
Puisque, donc, l'approche de Haeckel dépasserait les bornes de la science. Et je crois que là, c'est l'exemple d'un transfert culturel qui montre que la non-réception d'un courant peut être aussi parlant, en un sens aussi instructif que sa réception, donc, puisqu'il montre juste une divergence des cultures là, entre donc, peut-être une culture plus matérialiste contre donc, cette culture moniste, esthétique, tout simplement. Je crois que Jules Souris, donc, cette traduction, ne comprend plus ce que Haeckel essaye de faire. Et pourtant, c'est intéressant.
Ce qui est fou dans l'histoire de ce concept d'écologie, c'est qu'il y a peu de concepts comme celui-ci qui deviennent un courant de pensée politique. Ça arrive un siècle après la naissance du terme écologie, dans les années 60-70. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait une écologie politique et pas, par exemple, une astrophysique politique, une biologie politique? Ça tient à ce que vous disiez sur le fait que c'est à la fois une esthétique, une science, une vision du monde. Et si on devait résumer à très grands pas cette évolution d'un concept d'abord scientifique et philosophique à un courant de pensée politique, quelles seraient, selon vous, les étapes marquantes de cette évolution-là du concept lui-même?
Oui, donc je pense qu'il faut voir que cette écologie politique qui émerge à partir des années 1970 s'appuie quand même donc sur l'écologie scientifique pour appuyer des revendications politiques diverses et pour contrer les perturbations de la nature induites par l'action des hommes qui sont de plus en plus apparentes. Donc on peut ici citer par exemple Rachel Carson, The Silent Spring,
à laquelle 1962, on avait consacré un épisode de Science Chrono en décembre.
Oui. Qui se réfère clairement donc à des ouvrages d'écologie ou dans le même contexte d'autres. Donc il est clair qu'il y a un lien fort entre ces deux types de disciplines, même si on les distingue aujourd'hui, donc l'écologie scientifique et politique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le concept d'origine semble plutôt tomber dans l'oubli, c'est-à-dire être amputé de tout un pan philosophique, sa substance, et en même temps être un peu dilué donc dans toutes sortes de rhétoriques environnementales qui se développent, toutes sortes de métaphores aussi. Donc on revient à la métaphore de la maison, mais on crée aussi d'autres métaphores, le vaisseau spatial Terre, Gaïa, etc. On continue à parler d'écologie, mais le concept paraît être à la fois appauvri par rapport à cette toute première écologie et dilué.
D'où la nécessité de faire ce qui n'a pas été encore fait, une histoire globale de ce concept d'écologie qui a beau avoir quasiment un siècle et demi d'existence, a déjà connu 1000 vies. Est-ce qu'il faut appeler du coup les jeunes chercheurs à écrire cette histoire globale de l'écologie pour y voir plus clair dans ce concept et dans son évolution ?
Absolument. Je pense que ce qui est frappant quand on lit les histoires de l'écologie, c'est que, donc, comme je disais, tout le monde cite Haeckel, mais personne ne le commente. Et qu'il y a une tendance qu'on constate à, quand même souvent dans ces histoires de l'écologie qui souvent se veulent globales, donc d'extrapoler un peu toute une écologie à vocation universelle à partir de leurs propres références nationales. Donc, que ce soit le romantisme allemand, Rousseau ou le American Wilderness. Voilà, à chaque fois, donc c'est un peu à partir de son propre point de vue qu'on écrit. Et effectivement, je crois que ce sera intéressant d'écrire une histoire d'écologie véritablement globale, donc qui prêterait une attention aux mots, aux intraduisibles, aux particularités culturelles, aux transferts, aux circulations des idées.
Et vous parliez des intraduisibles, ce serait pas mal que cette morphologie générale des organismes de Haeckel soit traduite enfin en français pour qu'on puisse le commenter de façon aussi intelligente et précise que possible. Merci beaucoup à vous Stéphanie Buchenau d'être venue à notre micro pour nous parler de la naissance de ce concept capital.
Merci.
Mother Nature.
Mother Nature par The Temptations. Pour conclure cette émission, un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Et merci à Lina, notre partenaire. Vous pouvez, comme toujours, réécouter cette émission sur l'appli Radio France ou bien sur le site de France Culture, franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.
Make me feel fine. Let me stand naked in the sun, hiding from no one. Hey, mother, nature, come on and do your thing. I want to start feeling. See, you're the only one.